France Info.
Même cet après-midi au pied des Pyrénées, sous l'effet de Feune, avec des rafales à 80 km par heure. Il fait déjà 16 degrés ce matin à Biarritz. Et c'est vers les côtes bretonnes, sous la pluie, que le vent sera le plus fort. Les rafales sur les caps exposés pourraient dépasser les 100 km/h aujourd'hui.
Merci beaucoup Christine Peña. On vous retrouve pour une nouvelle météo complète dans une dizaine de minutes. Merci à tous d'écouter France Info en ce 18 décembre. Il est 5h. À la une, aujourd'hui, la France et Emmanuel Macron qui vont tenter de faire capoter la signature du traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, le Mercosur, qui doit avoir lieu ce week-end. L'Italie aussi se lance dans la bataille, vous allez l'entendre. À la une également ce matin, l'explosion qui a coûté la vie à 3 personnes cette semaine dans l'Ain a été causée par un suicide au gaz. C'est une information France Info. D'autres enfants placés ont été tondus dans des foyers parisiens. Témoignage d'une maman indignée à venir. Le PSG qui remporte la coupe intercontinentale. Et puis un très gros changement, les Oscars. Ça ne sera bientôt plus à la télé traditionnelle, mais sur YouTube. De nouvelles mobilisations sont prévues aujourd'hui d'agriculteurs qui s'opposent toujours à ces abattages de troupeaux de bovins qui sont atteints par la dermatose nodulaire, des blocages routiers, notamment une colère doublée d'une autre contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Alors que la Commission européenne compte valider ce texte définitivement d'ici ce week-end, de le ratifier avec les pays d'Amérique du Sud, et bien la France contredire son opposition à ce texte lors d'un sommet européen où le président de la République sera présent. Seule la France n'a pas les moyens d'empêcher cette ratification, Fabien Cazot, mais l'Italie vient à son tour de dire ses réserves.
En rejoignant la France, la Pologne et la Hongrie dans le camp du non, l'Italie bouleverse les rapports de force autour de la table du Conseil européen. À eux seuls, institutionnellement, ces 4 pays peuvent bloquer la signature de l'accord avec le Mercosur. Face à eux, l'Allemagne, dont le chancelier Friedrich Merz a déclaré hier soir qu'il compte exercer une pression intense sur ses partenaires européens, tandis que depuis São Paulo, le président brésilien Lula met également la pression, indiquant que si l'accord n'est pas bouclé rapidement, le Brésil ne le signera pas tant qu'il dirigera le pays. Dans le camp français, on estime que le travail doit être encore approfondi sur les clauses miroirs, ainsi que sur les garanties de concurrence loyale avec les agriculteurs du Mercosur, un travail technique qui ne pourra pas se régler en 2 jours entre dirigeants européens dans le cadre de leur sommet d'ici demain, à moins d'un énième revirement, toujours possible mais peu probable selon des diplomates qui suivent le dossier. La signature de l'accord pourrait donc être repoussée au début de l'année prochaine.
Merci Fabien Cazot à Bruxelles pour France Info. On en sait désormais plus sur le drame qui a endeuillé Trévoux, cette commune de l'Ain, avec cette explosion dans un immeuble en début de semaine qui a coûté la vie à 3 personnes dont 2 enfants. La 3e victime est une femme qui s'est suicidée en ouvrant le gaz, Mathieu Bonnour.
Cette femme vivait dans un appartement au rez-de-chaussée, celui qui a été entièrement détruit par l'explosion très impressionnante dans cet immeuble de 4 étages, situé tout proche d'une école et d'un lycée. Elle a volontairement laissé le gaz ouvert pour mettre fin à ses jours. Des voisins nous racontaient cette odeur qu'ils avaient sentie toute la journée. Puis il y a eu cette déflagration énorme, avec des fenêtres détruites aux alentours, des portes balayées et 13 personnes hospitalisées dans la foulée. Le corps de cette femme a été retrouvé après 24 heures de recherche dans les décombres du bâtiment. Les secouristes avait déjà découvert dans les heures après l'explosion les 2 autres victimes, 2 petits garçons, 2 frères de 3 et 5 ans dont les parents sont vivants mais dévastés. La procureure de la République précise qu'une cellule psychologique est mise en place pour accompagner les victimes de ce drame.
Les précisions de Mathieu Bonnour. C'est une information France Info. La maman de 2 enfants de 3 et 4 ans va porter plainte. Elle dénonce des faits de maltraitance dans un foyer parisien de l'aide sociale à l'enfance. Nous vous avions déjà révélé le cas d'Eliott, 8 ans, à qui l'on avait rasé le crâne en guise de punition. Et c'est donc ce qui est arrivé aussi dans un autre établissement l'été dernier à ces 2 garçons, Aurélien Tirard, placés provisoirement en urgence dans le 18e arrondissement.
Nous sommes au mois de juillet. Louis et Gabriel sont placés au foyer depuis une semaine car leurs parents vivent une rupture conflictuelle. Leur maman, Lola, leur rend visite. Et là, elle ne reconnaît pas ces 2 petits garçons, eux qui portent d'habitude les cheveux longs.
Je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Je me suis aperçue qu'ils avaient eu les cheveux complètement tondus, vraiment à blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un duvet de cheveux. Ce ne sont plus mes enfants, presque. Dans mon esprit, ils sortent d'un camp. Je suis restée figée.
Lola cherche immédiatement des explications.
J'ai dit, qu'avez-vous fait à mes enfants? Et là, on me dit, oui, ils ont les cheveux coupés. J'ai dit, ils sont tondus.
Cette maman avait bien donné son accord pour que le foyer coupe les cheveux de ses garçons parce qu'ils avaient des poux. De son côté, la fondation qui gère le foyer reconnaît seulement, je cite, que la coupe a pu être réalisée plus courte que prévu. Une explication qui ne convainc pas Lola.
Moi, je le considère comme une violence inouïe. Il n'y a pas de mots.
C'est pourquoi elle veut porter plainte.
Ma volonté est de me dire qu'un jour, les enfants poseront des questions. Et je souhaite pouvoir y répondre en disant qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour répondre à cette humiliation.
La mairie de Paris a signalé les faits au parquet, va convoquer le directeur du foyer et rencontrer la maman dans les prochains jours.
Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. La Russie vient d'annoncer la mort de 3 personnes tuées par des frappes de drones selon les autorités locales de la ville portuaire de Rostov-sur-le-Don. Et aux États-Unis, la Maison Blanche annonce une nouvelle rencontre entre émissaires russes et américains sur le plan de paix en Ukraine proposé par Washington. Des discussions qui ont eu lieu également avec les Ukrainiens ces derniers jours, avec des progrès selon le président Zelensky. François Bayrou est sorti du service de réanimation de l'hôpital de Pau. L'ancien premier ministre et maire de la ville, âgé de 74 ans, y avait été pris en charge pour un cas très sévère de grippe. Il reste à l'hôpital. Un 6e trophée pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a remporté hier à Doha au Qatar la Coupe Intercontinentale. Et ça, c'est une première pour un club français. Alors cette victoire, elle n'a pas été facile. Un partout à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Tout s'est donc décidé au tir au but. Julien Froment, et c'est un joueur méconnu du club de la capitale. Le gardien remplaçant, Matvei Safonov, qui a vraiment offert ce sacre au PSG.
Porté en héros par les joueurs et le staff technique devant les supporters parisiens, Matvei Safonov est passé en l'espace d'un match, certes historique, de l'ombre à la lumière. Il a même bluffé son entraîneur, Luis Enrique, qui a confié n'avoir jamais vu dans sa carrière un gardien arrêter 4 tirs au but. Le Russe, 26 ans, arrivé l'an passé dans l'ombre de l'Italien Gianluigi Donnarumma, a tout fait pour s'intégrer au moule parisien, selon son coéquipier Warren Zaïre-Emery.
Il a appris vite le français, il est toujours à l'écoute, et il est là pour l'équipe, il donne toujours le meilleur de soi-même, et c'est des joueurs comme ça qu'on a besoin. Et franchement, il est là pour le collectif.
Matvei Safonov, héros d'un soir ou futur titulaire, après la rencontre, Luis Enrique a esquivé la question.
Tu penses que c'est le moment de parler sur ça? C'est le moment de profiter de gagner encore un trophée? C'est le moment de féliciter tous les joueurs?
Pourtant, la performance de Safonov va alimenter le débat sur le poste de gardien numéro 1 au PSG, occupé pour le moment par le français Lucas Chevalier. Mes actes diront davantage que mes paroles, avait lancé Luis Enrique à son arrivée au club. Il faudra donc surveiller les prochaines décisions de l'entraîneur espagnol pour savoir si Safonov a l'étoffe d'un gardien titulaire au Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Julien Froment. YouTube ringardise encore un peu plus la télévision traditionnelle. C'est un séisme à Hollywood. À partir de 2029, les Oscars seront diffusés sur YouTube à travers le monde entier. Jusqu'à maintenant, c'était la chaîne ABC, propriété du groupe Disney, qui détenait les droits et qui les revendait à l'international, à des chaînes comme en France Canal+. Changement qui symbolise donc cette montée en puissance des nouveaux médias et la perte de terrain de la télé à papa, Loïc Piala.
En 1974, ABC avait racheté les droits des Oscars pour $1 million. Cette année, YouTube, porté par les immenses ressources de Google, aurait fait une offre à 9 chiffres pour diffuser la cérémonie entre 2029 et 2033. La nouvelle a secoué Hollywood. ABC et sa rivale NBC étaient sur les rangs mais n'ont pas voulu s'aligner. Même si les Oscars restent un événement, les audiences ont baissé de moitié en 10 ans. Le reflet d'un paysage médiatique de plus en plus éclaté, les chaînes traditionnelles font face à la concurrence des plateformes. En octobre, aux États-Unis, YouTube représentait par exemple 13% des audiences, plus que le groupe Disney. Le passage de témoins illustre également la montée en puissance du monde de la tech à Hollywood. Amazon a racheté les studios MGM en 2022, Netflix s'intéresse à la Warner aujourd'hui, et avec cet accord, YouTube offre à ses 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, ce que la plateforme appelle l'une de nos institutions culturelles les plus essentielles.
Merci Loïc Piala, correspondant à Los Angeles et à Hollywood de France Info. La star de la météo, elle reste bien sur France Info. Elle ne part pas sur YouTube. C'est Christine Peña. Absolument. Et Christine, vous nous annoncez ce retour des pluies et du vent le nord-ouest.
Oui, on a une belle dépression là qui s'est formée sur l'Atlantique. Elle ondulera près de la France en donnant effectivement ces pluies sur la Bretagne et le Cotentin. Mais elle ne rentrera pas aujourd'hui sur l'intérieur de la France. En revanche, demain, elle va traverser effectivement le pays. Alors aujourd'hui, ça reste relativement relativement calme sur les autres régions avec pas mal de soleil. On a autour du golfe du Lion des nuages qui arrivent. Pareil, ça va se gâter, mais à partir de demain et notamment sur la région PACA. Au niveau des températures, on a ce vent de sud qui soufflera assez fort aujourd'hui. On reste dans une grande douceur. En tout cas, il y participe. Ce matin, toujours pas de gelée. Alors si, peut-être à Strasbourg, on a un petit zéro quand même. 3 à Clermont-Ferrand, 7 à Nancy, 10 à Rennes, 16 à Biarritz. Et c'est encore là qu'il fera le plus chaud aujourd'hui, jusqu'à 20 degrés à Bayonne. 14 à Paris, à Rennes, à Nantes, ainsi qu'à Lyon. 17 à Toulon.
Merci Christine Peña. Il est 5h10.
Le boom des plateformes de vente en ligne, l'envers du décor. Journée spéciale sur France Info.
Où et comment sont fabriqués les produits?
Chine, Vinted, Amazon, qui vend et qui contrôle?
Normes, qualité, comment être sûr de vos achats?
Toute la journée, reportages et invités.
Le boom des plateformes de vente en ligne, l'envers du décor. Journée spéciale sur France Info.
Et justement, à l'occasion de cette journée spéciale, nous allons nous glisser dans la peau des inspecteurs de la répression des fraudes. À l'approche de Noël, autant vous dire que ces fraudes, elles pullulent sur Internet. Rendez-vous dans quelques minutes. La grippe qui continue à gagner du terrain est-elle plus virulente cette année? Les hôpitaux sont-ils prêts? Les réponses arrivent. Revenons d'abord sur ce bras de fer entre Européens, sur le traité avec le Mercosur.
France Info, 5h-6h. William DeCosta.
Ce traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud rejeté en bloc par le monde agricole en France, avec de la colère qui s'ajoute à celle autour de la dermatose bovine qui progresse. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron. Le président participe à un conseil européen aujourd'hui à Bruxelles avec les 27, avec une question. Ce traité sera-t-il adopté contre l'avis de la France? Le président de la République est un petit peu contraint de reprendre la main sur ce dossier. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour à tous.
Service politique de France Info, l'objectif du président, en tout cas, Paul, c'est de ne pas attiser la colère des agriculteurs.
Le président est en soutien des agriculteurs, balaye timidement l'Elysée. Preuve donc qu'Emmanuel Macron marche sur des œufs, loin de la relative confiance affichée au Brésil, l'un des pays du Mercosur, au mois de novembre, quand le président estimait que l'accord allait dans le bon sens, au point de se dire positif mais vigilant. Depuis, il répète clairement qu'en l'état, le traité n'est pas acceptable. D'ailleurs, la France réclame des contrôles sanitaires renforcés, des clauses de sauvegarde. Ça, c'est pour éviter l'importation de produits qui ne respecteraient pas les mêmes normes que celles imposées aux Européens. Et des mesures miroirs, pas sûr qu'on les ait dans quelques heures. Coupe un conseiller, Emmanuel Macron veut se poser en défenseur des intérêts français. C'est ce qu'il dit. Certaines filières estiment que ce traité de libre-échange serait bon pour elles. Mais sans le dire haut et fort, la viticulture, la filière laitière, Emmanuel Macron redoute donc un jeu de poker menteur qui attiserait la colère avec le Rassemblement National en embuscade pour tenter de la récupérer. Une ministre s'inquiète déjà. On ne pourra pas tolérer des blocages qui empêcheraient de circuler pendant Noël.
L'enjeu pour le chef de l'État, Paul, c'est aussi la scène politique internationale.
Et là, c'est une question de crédibilité pour le président, qui est d'ailleurs régulièrement accusé de faire volte-face. La France demande un report du vote des Européens sur le traité à 2026, avec le soutien de l'Italie, mais pas celui de l'Allemagne. Sauf qu'un bras de fer fragiliserait sa parole sur la scène continentale, alors qu'Emmanuel Macron est déjà affaibli politiquement depuis la dissolution. Ce traité de libre-échange relève bien de sa compétence. Hier, en Conseil des ministres, le président a prévenu « la France ne se laissera pas faire, elle votera contre ». Si les instances européennes décident de passer en force, a confirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu, avant que dans la soirée, le Brésilien Lula pose un ultimatum. Le traité avec les pays du Mercosur doit être signé maintenant ou ne le sera jamais sous sa présidence. Avec lui aussi, Emmanuel Macron a toujours choisi de jouer, surjouer la proximité, l'amitié et l'étape dans le dos.
Merci Paul Barcelone du service politique de France Info. Revenons à cette journée spéciale aujourd'hui sur France Info consacrée à ces plateformes d'achat en ligne qui font beaucoup parler, surtout avec Noël qui approche. 8 articles sur 10 qui ont été contrôlés, qui sont arrivés en France le mois dernier, ne respectaient pas les normes qui s'imposent à tous les produits en France. 8 articles sur 10, et face à cela, les contrôles, ils sont d'ailleurs assez dérisoires. Moins d'1% des produits importés en France sont contrôlés à l'heure actuelle. Bonjour Marina Capitaine.
Bonjour, bonjour à tous.
La répression des fraudes est en première ligne. La répression des fraudes qui dépend du ministère de l'économie, qui fait face à ces pratiques des plateformes. Alors comment s'y prend-elle pour les contrôler ?
Première étape de ces enquêtes, identifier les suspects, c'est-à-dire les produits les plus dangereux quand ils ne sont pas aux normes. Jouets, vêtements pour enfants ou encore bijoux. Étape numéro 2, se mettre dans la peau de la victime. Fatou Diallo dirige le service des enquêtes.
Les enquêteurs et enquêtrices ont la possibilité de prendre une identité d'emprunt, de se faire passer pour un consommateur et d'acheter, récupérer des produits, comme on prélèverait dans un magasin physique, les envoyer à nos laboratoires pour analyse et récupérer les résultats d'analyse.
7 produits sur 10 vendus par les plateformes chinoises ne sont pas conformes aux normes européennes, selon l'association UFC Que Choisir.
Mais quand un produit est frauduleux, Marina, que se passe-t-il ensuite ?
La répression des fraudes notifie la plateforme, lui demande de supprimer l'annonce, voire d'organiser un rappel auprès des acheteurs. Les enquêteurs compilent aussi des vidéos, captures d'écran, échanges de mails, autant d'éléments qui peuvent prouver que la plateforme trompe intentionnellement les consommateurs si le dossier va en justice.
Oui, comme avec Shein.
Exactement, avec l'affaire des poupées sexuelles au visage d'enfants. Là, c'est un signalement qui a alerté la répression des fraudes.
Et c'est des produits que l'on n'avait pas vus. Si on les avait vus avant, on aurait fait des suites. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des milliers et des milliers de produits. Il est impossible de voir. Et des nouveaux produits tous les jours sur ces plateformes.
Et Marina, on en revient justement aux conclusions de ce rapport parlementaire sur les contrôles qui sont jugés dérisoires. On le disait, moins d'1%. Rapport qui affirme que la répression des fraudes a trop peu de moyens pour lutter.
Sur 1 million de produits importés dans l'Union européenne, 82 ont été contrôlés l'an dernier. Alors faut-il plus de moyens ? Réponse en demi-teinte de la porte-parole de la répression des fraudes, Alice Vilco.
Se dire qu'il faudrait des moyens pour pouvoir contrôler chaque annonce, c'est peut-être c'est un idéal, c'est pas forcément réaliste. Ce qui est important, c'est surtout de réussir à toujours être à la page en termes de technologie, puisqu'on se rend bien compte que c'est des plateformes qui utilisent énormément de l'intelligence artificielle. Il y a un avant et un après Chine, ça c'est évident, parce qu'on a pris conscience aussi que sur ces plateformes, il pouvait y avoir des choses très graves.
Shein, Temu, AliExpress, les produits en provenance de Chine, c'est 73% du chiffre d'affaires du e-commerce en France.
Merci beaucoup Marina Capitaine. L'hôpital se prépare à faire face à la vague de grippe. L'épidémie pourrait avoir un fort impact pendant les fêtes, selon les projections de l'Institut Pasteur et de Santé publique France. Fort impact sur les hôpitaux à quelques jours des vacances scolaires de Noël. La carte de France hexagonale est complètement rouge. Benjamin Davido est infectiologue référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches en région parisienne. Lui aussi, cette vague de grippe, il l'a déjà bien sentie.
Il y a une augmentation des cas, c'est indéniable. D'abord, les marqueurs en ville et notamment le pourcentage de positivité des tests parle à lui tout seul. On sait qu'il y a à peu près un test sur trois qui est positif en ville. À l'hôpital, c'est autour de 10% et on voit d'ores et déjà depuis quelques semaines des cas de grippe sévère hospitalisés en Ile-de-France.
Ça veut dire quoi ? Il faut se préparer à quel type de scénario ?
Alors en réalité, quand on regarde finalement la dynamique de l'épidémie dont vous avez parlé, on est dans un scénario qui ressemble trait pour trait à l'épidémie de l'an dernier. Évidemment, quand on dit ça, ça peut faire peur, puisque l'an dernier, on sait que la grippe a été particulièrement virulente et Santé publique France a estimé environ 17 000 décès imputables directement et indirectement à la grippe. Et on sait également que cette année, c'est ce qui s'est passé au Japon, c'est ce qui est en train de se passer actuellement en Angleterre. Il y a une grippe qui est très contagieuse de par ce fameux sous-type d'ICA qui en fait est une grippe H3N2. Elle a rien de nouvelle, simplement elle est particulièrement transmissible. Et ce qu'on observe depuis les quelques semaines qui se sont déroulées, puisque l'épidémie en réalité elle remonte à ce qu'on appelle la semaine 40 de l'année 2025, c'est que petit à petit cette souche gagne du terrain, y compris en France, et on arrive petit à petit à un équilibre entre ces souches H3N2K et la grippe entre guillemets classique, qui est la grippe AH1N1. Donc évidemment, c'est pas de très bon augure en termes de pression du système hospitalier, mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, on a l'impression que la vaccination a eu un élan, notamment chez les plus 65 ans, et on espère que cette augmentation de couverture vaccinale va freiner en partie l'épidémie.
Alors, elle est très contagieuse, vous l'avez dit. Benjamin Davido, est-ce qu'elle est très virulente, la grippe ?
Alors c'est toujours pareil, elle n'est pas plus virulente en tout cas dans ce type cas. C'est un peu les questions, vous savez, qu'on s'était posées pendant la pandémie avec les différents variants. Ce qui est certain, c'est que si elle est plus transmissible, elle va créer plus de cas et elle va avoir une dynamique d'accélération plus forte, et notamment avec des gens jeunes en bonne santé. Donc l'inquiétude, c'est que, on le sait, c'est un scoop pour personne. Le vaccin de la grippe, c'est pas un vaccin qui est particulièrement robuste. Les Anglais, d'ailleurs, sur l'épidémie en cours, estiment que le vaccin actuel permet une réduction de 35% des hospitalisations. C'est relativement peu. C'est beaucoup mieux que zéro quand on n'est pas vacciné. Mais encore une fois, il va falloir un peu jouer sur ce bouclier collectif, sur ces bons gestes barrières. Quand on est malade, mettre un masque. Peut-être pour certains s'astreindre à avoir des contacts et s'exposer à des situations à risque à l'approche des fêtes pour passer, comme vous l'avez dit, à l'approche de ces fêtes de fin d'année et puis même pour ce réveillon dans les meilleures conditions et pas tous se contaminer.
L'infectiologue Benjamin Davido de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches qui répondait à Julien Langlais sur France Info. C'est l'une des batailles de la guerre en Ukraine, la bataille des langues entre le russe et l'ukrainien. Vous allez entendre que la guerre pousse certains à vouloir oublier leur langue maternelle. France Info, reportage à venir dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une, ce Conseil européen à Bruxelles.
Conseil scruté de près par les agriculteurs français puisqu'il sera question du traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, du Mercosur. Les agriculteurs français craignent une concurrence déloyale. D'autres filières françaises pourraient en profiter, mais Emmanuel Macron demande un report du vote des pays européens sur ce traité et réclame notamment des contrôles sanitaires renforcés. Une arrestation après le piratage du ministère de l'Intérieur. Un jeune homme âgé de 22 ans est en garde à vue, soupçonné d'avoir visé des messageries du ministère. Le ou les hackers ont pu accéder à des fichiers de police. Le suspect arrêté près de Limoges a déjà été condamné cette année pour une affaire de piratage. L'explosion d'un immeuble dans l'Ain lundi n'est pas accidentelle. Elle a été provoquée par une femme qui s'est suicidée en ouvrant le gaz. Son corps a été retrouvé dans les décombres avant-hier. L'explosion a aussi tué deux enfants de 3 et 5 ans. Et puis la vigilance orange est activée dans la vallée de l'Arve. Un épisode de pollution aux particules fines est en cours. Il est donc interdit d'utiliser des chauffages individuels au bois ou d'agrément, de brûler des déchets ou de faire des feux d'artifice.
Info. Nous sommes donc en Ukraine où la guerre, nous le disions, est aussi linguistique, culturelle. Le pays, rappelons-le, est à près de 20% russophone. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avait été invoquée par Moscou pour justifier son offensive dans l'est du pays. Dans certaines villes, toujours contrôlées par Kiev, le russe est la langue maternelle de l'écrasante majorité, comme à Zaporijjia. Mais Boris Loumagne, sur place, et bien de plus en plus d'habitants font le choix d'arrêter de parler leur langue.
Oui, nous sommes ici dans l'une des bibliothèques de Zaporijjia et nous assistons à un cours d'ukrainien pour adultes. Au programme aujourd'hui, dictée, Anna est la professeure d'ukrainien, elle est aussi un peu prof d'histoire.
Le sud et l'est de l'Ukraine ont été massivement russifiés pendant toute la période soviétique. À l'époque, pour faire carrière, par exemple, il ne fallait parler qu'en russe. Et même après l'indépendance de l'Ukraine en 1991, cette situation a plus ou moins perduré pendant 30 ans. Voilà pourquoi, jusqu'au début de la guerre, Zaporijjia était une ville majoritairement russophone.
Mais tout a changé en 2022. Depuis, les Ukrainiens russophones veulent oublier leur langue maternelle. C'est le cas de Tetiana, l'une des élèves de ce cours.
En ce moment, j'essaie de m'imprégner de la langue ukrainienne. Le russe, c'est du passé.
À côté d'elle, Olena Akies. Olena a trouvé refuge à Zaporijjia après l'invasion par les troupes russes de son village situé dans le sud de l'Ukraine.
J'ai vécu un an et demi sous l'occupation russe et quand je suis arrivée ici, j'ai décidé de me débarrasser de ces mots russes. Je ne veux plus du tout entendre cette langue ni la lire.
Et c'est Anna, la professeure, qui résume bien, dans son ukrainien parfait, ce que pensent tous ses élèves de la langue russe.
C'est la langue de l'agresseur, de l'assassin qui essaie de nous envahir. Alors bien sûr, cette langue ne peut en aucun cas être la nôtre. La langue ukrainienne, de son côté, favorise l'unité du pays. Et l'unité, c'est la clé de notre victoire.
Parler ukrainien est un acte de résistance. La municipalité de Zaporijjia l'a bien compris. Les cours cours de langue pour adultes y sont dispensés gratuitement dans toutes les bibliothèques de la ville.
France Info reportage en Ukraine signé Boris Loumagne. C'est l'heure du monde d'Élodie. Avec ce matin, le scénariste du nouveau Black & Mortimer.
Bonjour Yves Sante.
Bonjour.
C'est à 6 ans que vous êtes tombé amoureux de la bande dessinée en recevant un cadeau, un exemplaire de Tintin au Congo. Vous avez griffonné, dessiné, écrit pour le plaisir avec une envie cachée de pouvoir un jour créer vos histoires. Alors oui, vous avez voulu être avocat puis diplomate pour voyager, écrire des romans le soir à l'instar de Paul Claudel ou Paul Morand. Mais l'appel de la mine et votre imaginaire a été plus fort que tout. Une annonce plus tard et vous voilà rédacteur en chef par hasard de l'hebdomadaire Hello BD. Aujourd'hui, vous signez le scénario du dernier album de la série des aventures de Black & Mortimer, La menace Atlante chez Dargo. D'après les personnages évidemment d'Edgar Jacobs, avec la complicité du dessinateur Peter Van Nongen, qui succède avec brio au regretté André Julliard, avec sous votre impulsion et imagination une suite assumée de l'énigme de l'Atlantide, la planète aux trois soleils de 1955. Sacré Paris quand même.
Sacré Paris. Surtout que l'album L'énigme de l'Atlantide fait partie du cœur mythique de l'œuvre de Jacobs. Black & Mortimer, c'est une des rares bandes dessinées que je ne parvenais pas à 10 ans à lire en une fois. Il fallait au moins s'y mettre à deux jours. C'était déjà l'approche du roman, en quelque sorte. L'ayant relu après, j'avais remarqué quelques cases, quelques dialogues où le prince Icar, prince des Atlantes, parlait déjà de leur régime végétarien, de leur énergie qui fonctionnait au nucléaire. Et en le relisant, je me suis dit mais que cet thème était finalement d'actualité, que Jacobs avait abordé des choses qui nous parlent encore aujourd'hui, 70 ans après, effectivement, et que ce récit laissait quelques trous qui était devenu Ulrich à la fin de l'énigme l'Atlantide, personne ne le savait. Donc il y avait à peu près tout, et les thèmes, et les portes ouvertes pour me donner envie de faire une suite. Donc je me suis lancé dans ce pari, avec évidemment l'accord et le soutien de l'éditeur, donc tout allait bien.
On a effectivement la démocratie, l'information, la désinformation, on a des apparitions de mirages russes à des endroits, entre guillemets, illégitimes. Et il y a aussi un regard sur l'information générale, sur comment on consomme l'information, comment on se nourrit.
Oui, je pense que Blake et Mortimer aujourd'hui doivent avoir un regard sur l'information, sur l'écologie, sur la politique. Sinon, ils ne seraient jamais que deux petits bonhommes de papier qui sauvent le monde à chaque album. Je pense que la série doit évoluer vers un côté plus proche de par leur fonction. Il y en a un qui est chef du MI5, l'autre qui est scientifique. Et Dieu sait si aujourd'hui le monde est régi d'une part par les avancées fulgurant de la science, très dangereuse si elles ne sont pas canalisées, et par, on le voit bien, les soubresauts géopolitiques qui n'arrêtent pas de rebondir. La difficulté, c'est de parvenir à parler de ça tout en parlant à travers une série qui se déroule dans les années 50 où le contexte n'était pas le même. Donc c'est un équilibre un peu délicat, mais j'essaye de temps en temps d'en sortir et de faire des allusions au monde d'aujourd'hui.
J'ai le sentiment qu'à travers tout ce que vous avez pu construire, à travers Blake et Mortimer, vous avez continué à faire grandir ce petit garçon que vous étiez. En gardant ses yeux d'enfant, Blake et Mortimer auraient-ils par hasard pu être les professeurs que vous auriez aimé avoir ?
Ah mais j'ai eu des professeurs comme ça. J'avais de la chance d'être dans un collège à Bruxelles qui, pour le coup, avait créé le deal avec Raymond Leblanc, fondateur du journal Tintin, pour diffuser les premiers numéros. Et donc il y avait dans ce collège une tradition comme quoi la bonne bande dessinée était acceptable, même si on ne pouvait pas lire que ça, bien entendu. J'ai été accompagné par la bande dessinée tant à l'école que chez moi, et ça m'a aidé à me construire et... Évidemment, après, j'ai lu beaucoup d'autres choses et des choses beaucoup plus sérieuses, mais je me suis toujours dit que la bande dessinée pouvait être un véhicule de plus que ce que ce n'était dans les années 60 ou 70.
Alors, ne faut pas chercher d'ombre féminine hein, dans Black & Mortimer, il n'y en a pas.
Dans celui-ci, il y en a particulièrement... Peu ou pas.
Pas du tout.
Nous avons essayé de placer des personnages féminins de nouveau parce que ça paraîtrait totalement incohérent. Même à l'époque, évidemment, qu'il aurait dû y avoir des personnages féminins. Mais la censure et les censeurs qui suivaient de près le journal Tintin, qui était à l'origine très catholique, ne permettaient pas du tout la chose. C'est pour cette raison-là. Jacobs, quand il a fait Blake et Mortimer, on lui a demandé de faire quelque chose pour un magazine pour les garçons.
Testostérone,
un autre magazine qui s'appelait Lynn pour les filles. Et tout était encore à l'époque très séparé.
D'ailleurs, c'est ce que vous avez rectifié hein, en tant qu'auteur de votre premier roman. Ça s'appelle L'expérience Pentagramme. C'est une expérience secrète hein, qui a mal tourné. L'héroïne est effectivement une femme. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le petit garçon que vous étiez et l'homme que vous êtes devenu alors aujourd'hui ?
Entre le petit garçon et l'homme, il y a eu le papa et que je suis papa de deux filles et que fatalement, ma vision du monde a changé du jour au lendemain. À partir de ce moment-là, j'ai voulu, à travers mes bouquins, écrire pour elles, qu'elles lisent peut-être un jour, mais aussi pour défendre leur cause qui fatalement me tient personnellement à cœur. Mais dans Blake et Mortimer, primaire, de temps en temps, on ne trouve pas la solution. C'est une histoire d'homme qui se passe entre hommes dans les années 50.
Merci beaucoup, Yves Sente, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci.
La menace Atlante est donc disponible aux éditions d'Argo. C'est le dernier album des aventures de Blake et Mortimer. Merci beaucoup.
Merci à vous également, Élodie Suigo. Et je confirme, le dernier album de Blake et Mortimer est très très bien. Ça fait un très beau cadeau sous le sapin de Noël. Et c'est l'heure de la météo.
Message passé.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Christine, une question, toujours pas de froid à l'horizon?
Bien écoutez, toujours pas, au contraire, les températures là sont en hausse. Elles progressent grâce à ce vent de sud qui va faire remonter les températures. En revanche, attention, à partir de ce week-end, elles vont commencer à baisser. Ça ne sera pas un froid intense, mais ça se sentira notamment en premier lieu sur le nord-ouest du pays. Et puis ces températures, le 25-26 décembre, là, vont franchement baisser. Et là, le froid, le vrai, vous savez, celui qui pique.
Celui de Noël.
Eh bien, celui de Noël. Il devrait être là, mais alors juste après Noël, voilà.
D'accord, merci beaucoup Christine Peña pour vos prévisions. Ce qui vous attend d'ici 6h sur France Info, la double colère agricole. Un sol contre les abattages de troupeaux touchés par la dermatose bovine et contre le traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, du Mercosur. La France tente de bloquer en urgence sa signature. Dossier complet dans 5 minutes. Et puis dans un quart d'heure, on vous parlera de ces cosmétiques qui contiennent des produits qui ne sont franchement pas recommandés pour la santé. Des cosmétiques à paillettes. On vous expliquera tout à 6h moins le quart. Pour l'heure, il est 5h30. Merci d'être avec nous. C'est l'heure d'un nouveau journal.
France Info. William Guécostard.
Il est soupçonné d'avoir piraté des données et des fichiers très sensibles du ministère de l'Intérieur. Un piratage découvert il y a une semaine. Un homme vient d'être arrêté, interpellé, Mathilde Lemaire. On ignore encore à ce stade le volume des données qu'il pourrait avoir siphonnées.
Vers 17h hier, des hommes de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, ont arrêté sans heurts cet homme dans un village de 800 habitants au nord de Limoges. Un suspect qui a seulement 22 ans et est déjà connu de la justice pour des faits du même ordre, condamné cette année même pour atteinte à un système de traitement automatisé des données. Pour une telle atteinte présumée, en bande organisée, au préjudice cette fois donc du ministère de l'Intérieur, il encourt 10 ans de prison, précise le parquet de Paris. L'enquête débute seulement. À ce stade, difficile d'évaluer avec précision le volume des données siphonnées. Si la découverte de l'attaque date d'il y a une semaine, les hackers avaient peut-être à ce moment-là déjà accès depuis plusieurs jours aux données confidentielles qu'ils ont piratées. Plusieurs fichiers de police, notamment le fichier de traitement des antécédents judiciaires. C'est par la technique classique du hameçonnage via des messageries de certains fonctionnaires en craquant leur mot de passe qu'ils ont pénétré ces systèmes. Un acte grave, a commenté sur France Info hier le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.
Merci Mathilde Lemaire du service police-justice de France Info. Le verdict est attendu ce matin au procès de Frédéric Péchier. Procès monstre qui a duré plus de 3 mois à la cour d'assises de Besançon. L'anesthésiste est accusé d'avoir empoisonné une trentaine de patients dont une douzaine sont morts. Lui clame son innocence. L'accusation réclame la réclusion criminelle à perpétuité contre lui. En Guadeloupe, un homme écope de 2 ans de prison dont 6 mois ferme, condamné pour avoir agressé sexuellement dimanche dernier l'ancienne députée et ancienne secrétaire d'État Justine Bénin. Il a reconnu lui avoir touché les seins et les fesses. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2011. Au Brésil, le Congrès vient d'adopter une loi pour réduire la peine de Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Cette loi lui permettrait de ne devoir purger que 2 ans et demi. L'actuel président Lula peut encore mettre son veto à ce texte. France Info consacre sa journée aux plateformes de vente en ligne. Elles sont devenues incontournables pour acheter nos cadeaux de Noël, des cadeaux que l'on va chercher dans les arrière-boutiques des commerçants qui font relais colis, qui débordent de paquets. Les commerçants récupèrent en ce moment plusieurs dizaines de colis chaque jour et certains commencent un peu à se lasser, voire même à saturer, comme ici à Dijon, Laurette Puot.
À genoux à côté de son comptoir, Arnaud Verchère trie les colis.
Je viens de recevoir une série de colis que je suis en train de ranger. J'en ai reçu 28 ce matin et j'attends encore Chronopost qui va venir derrière.
Le gérant du bureau de tabac rue Audra peut stocker 60 colis dans son magasin, un taux très vite atteint en cette période de fête.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup et surtout beaucoup trop des fois par rapport au peu de rangement dont on dispose.
Lassé, Arnaud envisage d'arrêter. Une décision prise sans regret en tout cas pour la boutique voisine au parquet des Ducs. Au mois de janvier, plus aucun colis n'arrivera ici, explique la commerçante Bérangère Galtier.
C'est pas assez rentable, 20 centimes ou 30 centimes par le colis. Il faudrait en faire une des tonnes, pas possible. Il faut aussi beaucoup de place, donc on veut pas non plus enlever nos parquets alors que c'est notre image de marque.
L'activité développée au début pour faire connaître la boutique empiète finalement un peu trop.
Ça nous empêche de travailler sur d'autres projets à côté. J'en ai bien 50 par jour. Donc, et encore, je refuse parce que je ne peux pas tout prendre. Quoi.
L'envoi de colis augmente en France. Le groupe La Poste a enregistré à lui seul une augmentation de 6% en un an, juste pour la période novembre-décembre.
Le reportage de Laurette Puot, ici Bourgogne, pour France Info. Merci d'être avec nous, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
400 000 doses de vaccins contre la dermatose nodulaire bovine vont arriver par avion à Toulouse aujourd'hui en provenance des Pays-Bas. C'est l'armée qui a été mobilisée pour aller chercher ces doses pour vacciner les bovins dans le quart sud-ouest où la maladie progresse et qui entraîne lors de la détection d'un seul cas l'abattage d'un troupeau entier. La vaccination a commencé à s'organiser à l'avance même dans ce village de Cérisol aux confins de l'Ariège et de la Haute-Garonne, Julie-Marie Lecomte.
Nous sommes chez les deux dieux, le père et le fils, Michel et Lucas, tout près d'un foyer de contamination.
Oui, le village de Touille, il est derrière cette colline. Là. À vol d'oiseau, je dirais 4 km, on est tout près.
Autant dire que le jour où on a appris ça, ça nous a encore plus mis au fond. À partir d'aujourd'hui, on commence à être un peu plus soulagés.
Vous avez l'air fatigué, vous frottez les yeux là.
Eh bien ouais, on a commencé de bonne heure ce matin, à 6h30.
Lui, c'est le voisin qui s'appelle Nance André. Il est venu donner un coup de main.
On a commencé par chez nous, après on est allé chez un autre voisin et après on est venu ici. C'est le troisième éleveur. C'est le cabinet vétérinaire qui donne un peu les ordres. Donc en fait, leur but c'est de faire pour perdre le moins de temps possible, village par village. Quoi.
D'où une organisation quasi militaire.
Je vais me chercher les doses.
Chacun son rôle et évidemment aucune bête ne doit être oubliée.
31,90, ok.
31,98. Okay. Dans l'ordre, il y a mon père qui tranquillise les vaches avec sa présence. Il y a une éleveuse du village qui passe les aiguilles à la veto. La veto, elle pique et elle met les aiguilles usagées dans une bouteille. Et un autre agriculteur du village et mon apprenti coche au fur et à mesure les numéros du registre bovin de l'exploitation pour bien vérifier qu'on fasse tous les animaux présents sur l'exploitation.
Cette solidarité, elle va de soi ?
Oui. Si mon voisin ne vaccine pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas assez de personnes pour l'aider, et qu'une semaine après, il a un cas et qu'il se fait abattre son troupeau, je m'en voudrais de ne pas être allé l'aider. Quoi, voilà.
3 heures pour vacciner tout le troupeau, les vaches, leurs veaux, le taureau, plus de 200 têtes au total. L'exploitation dépend largement de ses exportations, mais cela, Lucas y pensera plus tard.
Si on ne peut pas exporter, on est foutu. C'est sûr qu'il y aura un problème économique, mais l'argent, on verra plus tard. Pour le moment, c'est sauver nos bêtes. Dans la situation actuelle où on est, moi, je réfléchis maladie. On a vraiment peur pour nos troupeaux.
Lucas dit qu'il ne reste plus maintenant qu'à croiser les doigts, le temps que le vaccin fasse pleinement effet.
Un reportage signé Julie-Marie Lecomte et Sandrine Malon. De nouveaux blocages sont donc attendus aujourd'hui sur les routes contre la politique d'abattage face à la dermatose. Et puis des cortèges d'agriculteurs européens doivent aussi converger vers Bruxelles aujourd'hui pour dénoncer le projet de traité de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. Les dirigeants des 27 se réunissent dans la capitale européenne pour se prononcer sur ce projet de traité. Emmanuel Macron compte s'y opposer au nom de la France, mais l'issue du vote est très incertaine. C'est ce qu'explique Céline Imar. Elle est eurodéputée Les Républicains. Elle est elle-même céréalière dans le Tarn.
Il faut 4 États membres qui représentent minimum 35,1% de la population européenne. Aujourd'hui, on sait que la Pologne est très clairement opposée à cet accord. Potentiellement les Hongrois, les Autrichiens aussi sont opposés à cet accord. Si la France s'oppose, il faut absolument qu'on ait l'Italie avec nous. Et ça, ce sont les règles de l'UE. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la Commission a fait quand même un coup de force démocratique en scindant cet accord. En fait, cet accord, avec le mandat qui a été donné par les États membres à la Commission, implique une ratification de cet accord par tous les parlements nationaux. Tous les parlements des 27 États membres. Mais comme la Commission sait que tous les parlements nationaux ne ratifieront pas cet accord tel qu'il est écrit, en fait, ils ont scindé l'accord en deux parties, mettant en branle la partie commerciale de l'accord sans ratification, et ensuite les parlements nationaux devront se prononcer sur le respect des principes démocratiques et de coopération. Et ça, c'est un coup de force de la Commission pour éviter la ratification. Donc le combat, c'est cette semaine qu'il doit se gagner, et c'est bien sûr quand il sera voté par les eurodéputés, certainement en janvier, en février, où on espère qu'il arrivera ou pas sur notre table de vote.
Quel est le scénario le plus probable, selon vous, Céline Imar? Est-ce que samedi, ce traité sera signé, oui ou non? Et quelles sont les prochaines étapes?
Ce qui est certain, c'est que si cet accord n'est pas voté au niveau du Conseil cette semaine, il va falloir qu'on délaye, qu'on reporte en fait l'examen de ce vote au Conseil en janvier ou février. Le risque, ce serait une bonne nouvelle, en tout cas pour nous qui nous y opposons fermement. Ce serait que les pays pauvres, donc Lula par exemple, ou les pays argentins ou uruguayens nous disent « Écoutez, vous nous avez baladé pendant 25 ans, maintenant c'est trop tard, on ne veut plus discuter ». Si ce n'est pas le cas et que cet accord est réexaminé en janvier, il va arriver sur la table du Parlement, probablement en février. Et là, ce sera vraiment à nous d'instaurer, et c'est ce que je fais déjà, un rapport de force pour que la majorité simple des eurodéputés s'oppose à ce texte.
Quelle est votre marge de manœuvre à vous, députés européens ?
C'est de nombreux rendez-vous, c'est essayer d'aller voir les députés pour leur expliquer qu'on ne peut pas aujourd'hui voter un accord qui soumet notre agriculture et notre secteur agricole déjà extrêmement fragile à de la concurrence déloyale, à de la concurrence moins-disante, et qui met sur la table de nos consommateurs des produits qui ont été fabriqués avec des normes, avec des antibiotiques, avec des pesticides interdits chez nous, etc. Notre deuxième point de pression, il se joue bien sûr sur nos États membres. Et puis, il y a un troisième élément qui peut jouer en notre faveur, c'est vraiment la mobilisation. Avec 10 000 agriculteurs attendus, la Commission est quand même sensible à la pression de la rue. Donc, c'est aussi de fédérer autour de nous une réponse qui est clairement celle du non à ce traité.
Même si l'Union européenne annonce qu'elle est parvenue à un accord provisoire, je cite les termes, visant à mettre en place des contrôles sur les importations des produits agricoles en provenance du marché commun sud-américain.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a déjà énormément de volailles qui viennent du Brésil. Et en fait, ces contrôles ne sont pas exercés. Ils sont remplacés par des certificats sur l'honneur des exportateurs brésiliens sur lesquels on a déjà eu des problèmes d'hormones ou d'œstrogènes. Donc, ces contrôles sont factices. Ils ne sont pas réalisés parce que l'Union européenne n'en a ni les moyens humains, ni les moyens financiers, ni à l'heure actuelle la volonté politique.
Céline Imar, vous êtes vous-même céréalière dans le Tarn, vous êtes concernée vous aussi par ce futur traité de libre-échange entre l'Union européenne
Bien
et
sûr.
Les pays du Mercosur. Si il vient à être signé, quelles seraient pour vous concrètement les conséquences de cet accord ?
Les conséquences, ça pourrait être une baisse des prix sur le complexe céréalier, puisque notamment les pays du Mercosur sont des grands fournisseurs de maïs sur lesquels ils ont plusieurs récoltes par an, des OGM, des pesticides comme la trazine, interdite chez nous depuis 30 ans, et dont viendrait aussi directement exporter vers chez nous beaucoup d'éthanol, et ça viendrait vraiment à déséquilibrer la filière maïs. De toute façon, Madame von der Leyen, je vais vous dire, elle a déjà son billet d'avion pour samedi, qui est pris pour aller à Rio. Maintenant, nous, notre but, il est très clair, c'est que si elle prend l'avion pour Rio samedi, ce soit juste pour aller passer des vacances à la plage.
Céline Imar, pourquoi justement il y a un tel forcing de la part de la présidente de la Commission européenne, pas seulement d'Ursula von der Leyen, vous avez évoqué l'Allemagne également, qui pèse de tout son poids pour signer ce traité. Pour quelle raison ?
Mais parce que l'Europe a un intérêt globalement, il y a beaucoup de pays qui ont un intérêt vital à ce que cet accord soit signé. L'économie allemande, vous en parliez sur les biens industriels, est au plus mal aujourd'hui. Elle a absolument besoin d'exporter son industrie automobile, son industrie chimique, son industrie pharmaceutique. Les pays du Nord ont tout intérêt à pouvoir développer leur filière du bois et du meuble dans un contexte où leur économie se ralentit. Donc, on a la Chine qui se referme, qui prend des politiques de plus en plus agressives, la politique très protectionniste de Donald Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qui nous impose des droits de douane. En fait, la Chine et les États-Unis durcissent leur politique, ce qui affecte directement aussi l'économie européenne. Donc, réunir un marché de 722 millions de consommateurs entre les consommateurs européens et les consommateurs sud-américains fait sens pour de nombreux pays qui défendent leurs intérêts. Le véritable problème, c'est que nous, en France, nous avons un tissu agricole qui a une importance très, très, non seulement économique, mais aussi sur le plan du maillage territorial, sur le plan des emplois, sur le plan de notre identité agricole. Et donc, nous nous retrouvons, nous, à essayer de défendre les intérêts agricoles qui sont ceux de notre pays, mais que les autres pays n'ont pas. Et eux défendent leurs intérêts.
L'eurodéputé Les Républicains Céline Imar qui répondait à Julien Langlais. Vous l'avez peut-être demandé pour Noël ou alors vous allez peut-être l'offrir. Alerte sur le maquillage scintillant, brillant et sa composition. On va tout vous expliquer dans un instant.
Vous voulez courir le Schneider Electric Marathon de Paris le 12 avril prochain ? Dernière chance pour participer à l'épreuve en partenariat avec France Info. Défendez une cause qui vous tient à cœur et réservez un dossard associatif. Transformez votre défi personnel en un acte solidaire et collectez des dons pour l'association de votre choix. France Info, partenaire du Schneider Electric Marathon de Paris, dimanche 12 avril 2026. France Info.
6h moins le quart, l'essentiel de l'actualité en une minute avec Maureen Suignard et à la une, la France entière désormais en phase épidémique de grippe.
Le nombre de cas continue d'augmenter, le pic n'est pas encore atteint et les autorités s'attendent à un impact assez fort sur les hôpitaux pendant les vacances de fin d'année. Et cette année, la grippe est très contagieuse, mieux vaut porter un masque lorsque l'on tousse. Des manifestations en France et en Belgique, manifestations d'agriculteurs, ils s'opposent au protocole sanitaire du gouvernement, de lutte contre la dermatose, l'abattage des troupeaux entiers en cas de découverte de la maladie. Manifestation aussi à Bruxelles où les États membres de l'Union européenne mènent d'ultimes négociations sur le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Les agriculteurs français craignent une concurrence déloyale. Un contrat à 11 milliards de dollars, le gouvernement américain approuve une vente d'armes à Taïwan, des missiles, des drones, des obusiers. Les montants de cette vente entre les États-Unis et Taïwan est le plus important depuis 2000. Une manière pour Washington d'afficher son soutien à Taïwan, île revendiquée par la Chine. Et puis un sixième titre en 2025 pour le PSG. Les Parisiens remportent la Coupe intercontinentale face aux Brésiliens de Flamengo. Une victoire au tir au but grâce notamment à la performance du gardien remplaçant Matvei Safonov.
Il faut mettre des paillettes dans sa vie, c'est certain, mais à quel prix ? Une étude publiée ce matin alerte sur le maquillage brillant ou pailleté. L'association Avicenne a passé au microscope une dizaine de produits qui rendent la peau nacrée, brillante ou scintillante. Bonjour Grégoire Le Callot.
Bonjour.
Spécialiste santé de la rédaction de France Info, les résultats sont assez inquiétants.
Oui, l'association a concentré ses recherches sur les produits que vous trouvez en magasin avec la mention scintillant, irisé, satiné, doré, pailleté. Ces produits cosmétiques sont de la famille du maquillage dit perlescent et c'est très à la mode, comme on l'entend sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.
C'est la touche parfaite pour scintiller et rivaliser avec votre sapin de Noël.
Ce sont des produits qui ont eu un essor assez phénoménal en 2024 sous l'effet des réseaux sociaux et de TikTok.
Mathilde Detcheverry est la déléguée générale de l'association Avicenne.
Les consommateurs et les consommatrices qui vont utiliser ces produits plusieurs fois par jour. J'ai des exemples autour de moi de jeunes ados qui sont au lycée, qui, pour certaines, à chaque intercours, vont sortir leur poudre pailletée.
Or, l'étude a passé ces produits sous un microscope électronique à balayage, un instrument très précis, et elle montre que tous contiennent de minuscules particules d'une substance classée cancérigène niveau 2, c'est-à-dire possible, quand on l'inhale ou qu'on la respire. Il s'agit de nanoparticules de dioxyde de titane. Pourtant, cette substance n'est signalée sur aucune étiquette.
Alors Grégoire, comment se retrouve-t-elle dans ces cosmétiques ?
Alors, ces nanoparticules de dioxyde de titane, normalement, elles sont censées rester collées sur des plaques de mica de plus grande taille. Or, les clichés du microscope montrent que ces plaques de mica, eh bien, elles se fendillent, elles se cassent, elles s'émiettent comme des banquises et elles larguent de minuscules particules de dioxyde de titane potentiellement nuisibles parce que plus elles sont petites et plus on les respire facilement.
Et qu'en dit l'industrie cosmétique ?
Elle souligne que ces produits ont fait l'objet de tests et de contrôles avant la mise sur le marché, qu'ils restent surveillés après. Le problème n'est pas connu, expliquait Juan Poivet de la Fédération des entreprises de la beauté.
On n'avait pas d'alerte particulière sur les pigments perlescents. Si effectivement c'est au-delà d'un problème de trace, il faudra qu'on se penche sur le sujet. On n'a pas connaissance, nous, d'un relargage possible, mais bien évidemment qu'avec ces informations, on va regarder ça de plus près, regarder ce qu'il en est, et s'il s'avère que c'est un relargage qui est important ou qui peut poser un problème, on en tirera les conséquences.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, doit être prochainement saisie par le ministère de la Santé pour vérifier une éventuelle toxicité de cette famille des cosmétiques scintillants.
Merci beaucoup pour ces précisions, Grégoire Lecalot, service Sciences, Santé, Environnement de France Info. Il est 5h48. Vous connaissiez les déserts médicaux, le choix de France Info est ce matin dans un grand désert médical, là où il n'y a quasiment plus aucun professionnel de santé. Bonjour Marc Bertrand.
Bonjour.
Vous nous emmenez en tournée avec un infirmier libéral dans une des zones rouges prioritaires du territoire, à qui le gouvernement avait promis des renforts en septembre. Mazerolles, 300 âmes à la limite de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Cet infirmier libéral, c'est le dernier du secteur. Il n'a vu aucun renfort arriver et il est le dernier fil qui relie les habitants au système de santé.
Il fait encore nuit noire, Dominique Cura, les yeux cernés, jette sa sacoche d'infirmier sur le siège arrière et s'installe au volant de sa Clio.
Allez, on commence la tournée jusqu'à peu près 14h30.
15 patients à voir aujourd'hui.
Grosso modo, plus de 200 km par jour. On est dans un isolement qui est quasi total. Premier hôpital à 45 minutes de voiture. On n'a plus de médecins sur le secteur. Beaucoup de patients. On est effectivement la seule personne qu'il voit dans une journée. Donc on va chez un couple de patients très âgés qui sont pas du tout en bon état. Attention aux chiens.
C'est un agriculteur retraité de 84 ans, bipolaire.
Y a personne ?
Sa femme est au sous-sol, en train de casser des noix dans des grands sacs de 20 kilos, avec un marteau en bois.
Avec des petites retraites, 550 euros. Pour bien faire un peu de travail.
C'est elle qui emmène son mari chez le médecin, en voiturette, parce qu'il n'a pas le permis.
Comme le mari il est malade, pour me faire soigner, il y a bien 24 km d'ici. Et on ne peut pas en avoir parce que c'est trop plein. Et il faut avoir un rendez-vous, il faut 3 mois d'attente.
Ici, les médecins salariés recrutés par le village d'à côté sont tous partis.
À demain, mon petit.
Il reste un médecin à la retraite qui continue d'exercer, mais seulement 3 jours par semaine.
Là, on part dans le Lot-et-Garonne.
Et les médecins volontaires qu'on vous a promis, vous les avez vus ?
Non seulement on ne les a pas vus, mais on n'en a pas entendu parler en plus.
Le gros problème, c'est d'obtenir des ordonnances.
Ah ben, c'est la débrouille. Le pharmacien avec qui on travaille, ils font des avances de traitement régulièrement sur des ordonnances qui sont plus valables et en général c'est la débrouille.
Dominique montre du doigt les maisons du hameau qu'on traverse, 8 habitants à l'année.
Les 8 patients, c'est des patients du cabinet. On y va ? Allez, on piste.
Nous voilà chez Michel et Josette, 87 ans tous les deux.
Messieurs, voilà qui ? Je vais vous en foutre des chouchous. Josette la crevette.
Ah ben ça, et vous, vous l'appelez comment ?
Chouchou, parce que je l'aime.
Ça va mon petit ?
Non.
Qu'est-ce qui se passe ?
J'ai pas le moral.
L'infirmier, c'est une présence rassurante.
Il y a un peu de tension, mais c'est pas grave.
C'est aussi le seul qui est là en cas d'urgence le soir, le week-end, en dehors de l'appel au 15.
Tous les week-ends, on sent un vent de panique sur la campagne, en fait. On est tout seul et on se débrouille tout seul. Avant, à l'époque, on faisait le numéro des pompiers, les pompiers se déplaçaient, c'est terminé, tout ça.
Dominique dit que, passé 70 ans, c'est presque impossible de faire déplacer une ambulance.
Dernièrement, j'ai été appelé sur un domicile. Une dame qui avait les symptômes d'un œdème aigu du poumon, c'est une urgence vitale. Je fais le 15, je tombe sur un jeune médecin qui m'a dit qu'il ne pouvait pas envoyer d'ambulance. Il m'a demandé de transporter la patiente dans mon véhicule personnel. Il y a un vrai manque de considération.
Là où l'infirmier se sent le plus seul, c'est face à la fin de vie. La plupart de ces patients sont très âgés, très malades, à domicile.
On a énormément de patients en fin de vie sur des pathologies lourdes, cancéreuses, qui agonisent dans des douleurs physiques et psychologiques. Une pompe à morphine, sans prescription, on ne peut pas le faire. Je veux dire, c'est quelque chose qui marque une famille à vie. Voilà, une ancienne ferme. Il n'y a plus rien non plus, hein, vu l'âge du patient.
Robert, 90 ans, est prostré dans son fauteuil.
Il n'y a personne !
Sa femme, Jacqueline, nous accueille à la porte. Elle est inquiète.
Robert n'est pas bien. Aujourd'hui, il n'est pas bien. Il passe d'un côté. Donc là, on est vendredi. Ça veut dire vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de médecin. Il y a Dominique Cura.
Ouais, mais bon... Limité quand même. Hein.
Et toi, tu la prends quand la retraite ?
Je crois que c'est pas pour demain. Hein. Il n'y a personne pour la suite. Ouais. Il faut qu'on trouve quelqu'un, on ne peut pas les laisser tous comme ça.
Ben oui.
On va voir, hein.
Dominique Cura a 63 ans. Il est fatigué, mais pour l'instant, il refuse de s'arrêter. 15 cabinets d'infirmiers enfermés en Dordogne en 2 ans. Il dit que les déserts médicaux sont en train de devenir des déserts infirmiers.
Les jeunes infirmiers, vous savez, moi j'en ai eu quelques-uns sur le cabinet. Hein. Il n'y en a aucun qui a tenu plus d'un an, en gros. Hein. Et ça me pose un problème, parce que je vais laisser toute une population démunie à ne plus avoir de soignants, quoi. Hein. Parce que je ne vais pas durer 20 ans encore, hein. Enfin, j'aimerais bien profiter un peu de ma vie, si c'est possible.
À Noël, comme chaque année, Dominique ira chercher un par un ses patients qui sont seuls pour les fêtes, pour un goûter chez lui le 25 décembre et pour leur offrir une boîte de chocolat.
Merci beaucoup Marc Bertrand pour le choix de France Info que l'on réécoute sur l'application Radio France. Dans un instant, la playlist du jour de Maureen Suignard avec un groupe de hip-hop pas comme les autres. Mais d'abord, l'actualité économique, c'est avec vous Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Actu Éco en 3 titres. On commence avec l'Allemagne qui renforce le financement de son industrie de défense.
Oui, à Berlin, les députés viennent d'approuver une nouvelle enveloppe de près de 50 milliards d'euros d'achats militaires. L'objectif est d'améliorer l'équipement en plein effort de réarmement face à la menace russe. Ce nouveau plan de dépenses porte les projets de l'armée allemande, la Bundeswehr, à près de 83 milliards d'euros cette année. Un niveau historique selon le ministère de la Défense qui y voit un signal fort envoyé à l'OTAN et à ses partenaires. Il faut savoir que l'Allemagne est à ce jour le premier soutien militaire de l'Ukraine en Europe.
La justice suspend le plan de suppression de postes chez l'industriel Thales.
Oui, le tribunal judiciaire de Toulouse décide de geler le plan de suppression de près d'un millier d'emplois dans l'activité spatiale du groupe français, annoncé en 2024 et contesté par la CGT. Les juges demandent à la direction de Thales Alenia Space de procéder à une nouvelle évaluation précise de l'impact du projet sur la charge de travail pour les salariés. En mars 2024, Thales avait annoncé la suppression et le redéploiement de 1300 postes de sa branche spatiale, dont 1000 en France, en raison de la crise des satellites de télécommunication.
Un autre refus, Emmanuel, celui du régulateur aérien face à la hausse annoncée des redevances aéroportuaires.
Oui, l'autorité de régulation des transports, l'ART, n'approuve pas la hausse d'1,5% des taxes que demande le gestionnaire des aéroports de Paris, ADP, aux compagnies aériennes jusqu'en mars 2027. Une hausse des redevances destinée à contribuer à un plan d'investissement de 8,4 milliards d'euros programmés de 2027 à 2034.
Emmanuel, on prend rendez-vous avec vous dans une demi-heure pour le Brief Éco.
L'évolution des prix est un indicateur surveillé de très près par vous et moi, tous les consommateurs, si l'on en croit l'INSEE. Après une accalmie, l'inflation pourrait de nouveau accélérer en France l'année prochaine et le chômage avec, et ce malgré une croissance en légère hausse. Mais que se passe-t-il donc dans l'économie française?
Vous essaierez de répondre à cette question, vaste programme, comme on dit, à 6h23. Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h55, c'est l'heure de votre playlist du jour aujourd'hui, Maureen Suignard. Et vous nous parlez d'un groupe de hip-hop formé en Belgique et qui a un truc en plus.
Son petit nom, c'est Chuller's Division. Chuller's Division est né en 2013 et si je vous en parle, c'est parce qu'il apparaît dans un reportage que vous pouvez retrouver en ce moment sur TV5 Monde, Lucas, une espèce humaine en voie de disparition. Chuller's Division a été fondé dans les Ardennes belges au sein de l'association S Grand Atelier, un centre d'échange artistique pour personnes en situation de handicap. Parce que ce que vous n'entendez pas, William, c'est que ce groupe est composé de 3 musiciens et de 2 rappeurs, un français et un belge, Philippe Marien et Costa Bodkin, 2 personnes porteuses de trisomie 21. Philippe Marien est l'exubérant quand Costa Bodkin est plus introverti, mais dès leur rencontre, ils sentent une compatibilité, un match artistique. Et pour Antoine Boulanger, qui est l'un des animateurs de l'association, il les accompagne en tant que musicien, régisseur et scénographe. Pour lui, leur truc en plus, c'est la spontanéité, ce côté brut que les adultes ont tendance à perdre, même dans les créations artistiques. Un vent de fraîcheur et du travail, beaucoup de travail. 5 ans après leur formation, The Chuller's Division sort son premier album. Ils se produisent au Festival de Dour en Belgique, à la Gaîté Lyrique à Paris et au Transmusical de Rennes.
Allez,
Les deux rappeurs n'ont aucun mal à retourner la scène. Ils puisent dans différents styles musicaux, improvisent, apparaissent parfois avec des masques de catcheurs. Ils se lâchent et font du bien à ceux qui sont de l'autre côté de la scène. Ça marche parce qu'ils font ce qu'ils aiment, parce qu'ils sont doués. Et si, en plus, cela fait changer le regard sur le handicap, alors tout est gagné pour Antoine Boulanger. Mais la victoire finale, c'est quand on regarde, qu'on écoute ces rappeurs comme des artistes à part entière, uniquement grâce à leur performance. Et leur deuxième album, Footrax, est sorti cet été. Footrax, vous avez le jeu de mots, William, vous qui êtes très friand, vous auriez pu le faire peut-être.
Oui, friand, c'est le mot. Merci beaucoup, friand de vos découvertes musicales. Merci beaucoup. Ma chère Maureen Suignard, la météo arrive avec Christine Peña.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Christine Peña, oui. Le temps reste calme pour aujourd'hui.
Oui, assez calme, c'est vrai. C'est un peu la dernière journée avant bien les pluies qui vont traverser le pays. Le vent également. Alors, on a le vent qui va souffler assez fort aujourd'hui. C'est un vent de sud qui va permettre de faire grimper ces températures qui sont en hausse, et notamment cet après-midi. Alors, ce matin, quasiment pas de gelée. Peut-être vers le nord-est, c'est vrai, on a un petit zéro là, du côté de Strasbourg, mais sinon, partout, on est en positif. Et cet après-midi, on aura 13 à Lille, 14 à Paris, à Lyon, 15 à Clermont-Ferrand, 17 du côté de Nice. Et le plus doux, ça sera au pied des Pyrénées avec 20 degrés du côté de Bayonne, la côte basque. C'est là où il fera le plus chaud. Mais alors, c'est le vent de sud avec cet effet de fun qui accentue la montée des températures. Côté ciel, on a pas mal de nuages, de brouillard ce matin. Les nuages sont de retour vers le golfe du Lion et du littoral jusqu'au sud du Massif central. Là, ce sont ces entrées maritimes qui arrivent, qui donnent très peu de pluie pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça va se gâter dans les jours à venir. Et puis, on a quand même les pluies qui sont présentes le long des côtes de la Manche et qui se cantonneront cet après-midi juste à la Bretagne et le Cotentin, avec pas mal de vent, des rafales sur les caps exposés qui pourraient atteindre les 100 km/h.
Merci beaucoup, Christine Peña. Lui aussi est fun, surtout quand les vacances de Noël approchent. C'est Jérôme Japluy. Bonjour Jérôme.
Bonjour William. Je crois que vous êtes un peu concerné vous aussi.
Oh,
William
oui.
Gacosta, Christine Peña, Solène Cresson, Maureen Suignard, que je salue, toute l'équipe de l'Info. On parlait de Noël. Des millions de